Radio Kapi.
D'abord les titres de ce journal. Deux jours après les naufrages sur les lacs Kivu, les membres des familles des personnes disparues poursuivent désespérément les recherches individuelles. Toutefois, les bilans provisoires fait état à ce jour des 34 morts et 80 rescapés. Désengorgement des prisons centrales de Bounia. Les parlements des jeunes de l'Ituri sollicitent l'implication du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance pour la libération des prévenus poursuivis pour des faits bénins. Jérémy Kinyangwa est l'invité de Radio Kapi ce soir. Le président de l'Union nationale du corps, enseignant de la province éducationnelle Nord Kivu 2, s'entretient dans ce journal avec Martial Papi Mukeba à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants ce 5 octobre. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal part du Nord Kivu. Naufrage sur les lacs Kivu, des recherches individuelles se poursuivent par les membres des familles qui ont perdu le leur dans l'accident du bateau MV Merdi jeudi près du port de Kituku à Goma. Le bilan provisoire s'est alourdi. À ces jours, il fait état des 34 morts et 80 rescapés. Au moment où des corps sont gardés à la morgue en attendant leur inhumation, certaines familles à Goma et à Minova désespérées de ne pas retrouver leurs proches organisent déjà les deuils. Des précisions avec Denise Lukeso.
Deux jours après les drames, de nombreuses familles angoissées sont toujours à la recherche de leurs proches. Une partie de ces familles passe des journées entières aux abords du lac au bord de Kituku dans l'espoir de retrouver les corps remontés en surface ou tout simplement d'obtenir des informations supplémentaires. Ces familles déplorent les laxismes des autorités provinciales pour la poursuite des recherches approfondies sous l'eau. Elles sont dans une situation de désespoir et expriment leur colère. Le CICR et la force navale ont déployé des canaux rapides pour mener des patrouilles de recherche sur les lacs. Hier, vendredi, le service de protection civile a déclaré avoir repêché 5 corps qui ont été acheminés dans des morgues, ce qui porte à 34 le nombre de personnes décédées. On estime qu'il y aurait peut-être des personnes disparues. Difficile dans ces conditions de donner avec exactitude le nombre de passagers à bord de ces bateaux qui a chaviré. En l'absence de tout document servant de manifeste, les coordinations de la société civile de Minova et de Mufuni Shanga déclare avoir identifié 163 disparus. Les causes de cet accident restent encore à élucider. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Face au drame du naufrage du MV Merdi survenu jeudi dernier au large de Kituku, l'Association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels, ASRAM, a remis ce samedi au gouvernement provincial un lot de sacs mortuaires destinés à assurer une inhumation digne et respectueuse des victimes. Le vice-gouverneur du Nord Kivu qui a réceptionné ces lots remercie l'ASRAM pour cette initiative. Il a également lancé un appel à d'autres partenaires pour se joindre aux efforts de secours et d'assistance aux familles endeuillées. Plus d'explications avec Rosalie Zawadi.
Il s'agit des 100 sacs mortuaires pour adultes et 100 autres pour enfants. Le professeur Joseph Wasomisona, président du conseil d'administration de la SRAMES, dit que ces sacs mortuaires permettront non seulement de respecter la mémoire des victimes, mais aussi de protéger la santé publique en évitant la propagation des maladies.
Maintenant, là, ce qui est très urgent, c'est l'inhumation. Parce que l'inhumation ne va pas attendre. Dès que toutes les autorités seront saisies, je crois qu'ils vont ordonner ces inhumations. Donc nous avons estimé que nous devons d'abord faire face à l'inhumation digne de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie.
Une intervention qu'apprécie le commissaire divisionnaire Romy Ekoukalipopo, vice-gouverneur du Nord Kivu.
Nous essayons de résorber toutes les crises, mais nous ne pouvons le faire que grâce à des partenaires également. Le gouvernement national, par l'entremise de la ministre des Affaires sociales, qui est déjà en nos murs, est en train de faire le nécessaire. Mais nous voudrons que nos partenaires au niveau local ici puissent également aider le gouvernement provincial.
Rappelons que de nombreuses familles attendent toujours des nouvelles de leurs proches disparus dans ces tragiques naufrages. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Notons enfin que l'aviation de la MONUSCO a été mise à contribution dans la recherche des survivants de ces naufrages. Au moins 3 corps ont été récupérés grâce à l'appui apporté au bateau de recherche par un hélicoptère de la MONUSCO. Les naufrages de MV Merdi a des retombées négatives sur l'économie de la région de Minova. La région repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et les commerces. Une bonne partie des habitants de cette zone géographique sont des opérateurs économiques locaux. Les villes de Goma et de Bukavu s'approvisionnent en produits agricoles à partir de Minova. La nuit majeure, c'est que beaucoup d'opérateurs économiques étaient justement ce jeudi à bord de ces navires qui a coulé avec des tonnes de marchandises. C'est toute l'économie de cette région qui a sombré, d'après cet habitant de Minova, joint par Denise Lukeso.
Étant donné que désormais, d'abord le premier aspect, l'effectif des personnes dévouées dans ce secteur est généralement réduit. Parce qu'on ne peut pas avoir l'économie sans les faiseurs des emplois, les gens qui sont en activité pour produire au profit de tout le monde. Le deuxième aspect sur l'économie est que les marchandises qui sont enfoncées dans l'eau constitue maintenant une perte totale car après la vente au marché de Kitoko ou de Goma, cet argent servirait à acheter d'autres produits avec bien sûr de l'intérêt et ces bénéfices pouvaient également faciliter la continuité de l'économie du milieu. Maintenant, avec cet argent qui est perdu dans ces marchandises, c'est déjà un manque à gagner. Mais également, on signale une somme colossale, un montant considérable d'argent qu'on ne sait même pas calculer, qui s'est également enfoncé dans l'eau. Voilà, c'est déjà une perte totale et qui est difficile à récupérer désormais.
Comment arriver à désengorger les prisons centrales de Bounia? Cette question était au centre des échanges vendredi entre les parlements de jeunes de l'Ituri et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance. Selon cette structure des jeunes, l'objectif est de solliciter l'implication de cette autorité judiciaire pour la libération des prévenus poursuivis pour des faits bénins. Cette dernière leur a promis de s'épancher sur cette question. Martial Kizabiamungu.
Construit en 1954 pour accueillir moins de 500 personnes, la prison centrale de Bounia héberge à ce jour, selon des sources pénitentiaires, 2410 détenus. Cette surpopulation est aujourd'hui à la base de plusieurs maladies dues à la promiscuité. Dans sa note de plaidoyer déposée vendredi au bureau du procureur de la République, le Parlement des jeunes de l'Ituri dit avoir constaté avec amertume que beaucoup de détenus sont incarcérés pour des faits bénins et d'autres ont déjà plusieurs années sans connaître leur sort. Son président, Gloire Abassi, explique leur démarche.
Nous avions eu à déposer notre note de plaidoyer afin que le procureur se prenne lui-même de la situation. Il doit faire des descentes sur terrain. Il doit sûrement aussi instruire certains magistrats. S'il y a des faits qui sont qualifiés de bénins, qu'on ne puisse pas immédiatement envoyer les gens dans des prisons.
Situation similaire à la prison centrale du Mambasa, toujours à l'Ituri, construite pour 250 personnes, on y trouve actuellement environ 600 détenus qui vivent dans des conditions déplorables et inhumaines, rapportent des activistes des droits de l'homme à Mambasa. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Ce 5 octobre, vous le savez peut-être, c'est la journée mondiale des enseignants, une occasion de célébrer ceux qui font de l'éducation une réalité, mais aussi faire entendre leur voix. À Bukavu, certains enseignants pensent que ces métiers méritent honneur et respect. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas, que ce soit de la part des parents, des élèves et même de la société en général. Rachel Kiesembangu a rencontré quelques-uns à Bukavu, leurs avis recueillis dans ses reportages.
Le constat que font les enseignants sur la valeur leur accordée est amer. Pourtant, affirme-t-il, l'enseignement est un métier noble. Monsieur Ngama Alexis, enseignant au complexe scolaire Arche de l'Unité de Bukavu, qui a plus de 10 ans dans l'enseignement, explique.
La valeur, on dirait, c'est la première de toutes les activités de l'homme. Pourquoi ? C'est nous qui façonnons les dirigeants de demain, les prêtres, les pasteurs, les mécaniciens, les politiciens, bref, tout et entre les mains de l'enseignant. C'est-à-dire, c'est un métier noble qu'en principe l'humanité devrait vraiment valoriser. C'est pourquoi moi je suis fier d'être enseignant.
Du même avis, Madame Solange Nsimiré appelle la société congolaise au respect de l'enseignant qui a le pouvoir de façonner le monde par l'éducation.
Aujourd'hui, l'enseignant, vraiment, il est négligé. Il devient quand même misérable. Hein? Avant, on considérait les enseignants, on donnait beaucoup de valeur aux enseignants, mais aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi. Vraiment, il faut que la société congolaise s'y mette beaucoup, prenne vraiment l'enseignant avec beaucoup de valeur.
Rappelons cependant que les enseignants du primaire des écoles publiques sont toujours en grève au Sud Kivu, cela depuis la rentrée scolaire, il y a plus d'un mois maintenant. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Au Kwilu, dans la division provinciale de la santé, DPS a organisé vendredi au gouvernorat à Bandundu une réunion des plaidoyers auprès des autorités politico-administratives, des opérateurs économiques, des responsables des entreprises tant publiques que privées et autres. Cela pour les inviter à soutenir financièrement ou matériellement les activités de la campagne de vaccination contre la poliomyélite prévue du 10 au 13 octobre et les activités de lutte contre l'épidémie à Mpox qui sévit dans la province. Selon les ministres provinciaux de la Santé qui a représenté les gouverneurs des provinces à ces assises, cet appui local sollicité va compléter les moyens mis à la disposition de la DPS par le partenaire et les gouvernements congolais à ces sujets. Le docteur Arnold Kapalati précise que le Kwilu a déjà notifié jusqu'à ce jour plus de 220 cas de Mpox, dont 9 décès. Il est au micro de Irène Bomaluzolo.
J'étais en train de faire une plaidoirie auprès de partenaires, auprès de la communauté, des leaders communautaires. Pour ce contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement dans la province, nous sommes terrassés par l'épidémie de Pox. Nous sommes déjà à 220 cas notifiés, dont 9 décès. Et nous devons aussi organiser une campagne de vaccination du 9 au 13 décembre. La vaccination contre la poliomyélite. C'est pourquoi nous avons cherché à faire atteindre l'information à tous les niveaux et à tout le monde. Voilà, ça a été l'objet de cette plaidoirie. Non seulement de chercher un appui local sur le plan matériel comme financier, un appui qui est complémentaire bien sûr, puisque le partenaire a apporté son appui, le gouvernement a apporté aussi son appui. Cette réunion, c'est juste pour suppléer des gaps dans notre organisation, ces gaps qui pouvaient être matériels comme financiers. En dépit de tout ce que nous avons reçu auprès du gouvernement comme auprès du partenaire, ça voulait sensibiliser aussi notre population de pouvoir s'engager.
On reste dans la province du Kwilu. Les professionnels des médias de la ville de Bandundu ont été outillés vendredi sur l'allaitement maternel et ses avantages. Cela lors d'une rencontre organisée par les programmes nationaux de nutrition Pronanut avec l'appui financier de l'UNICEF. À l'occasion, les journalistes ont été invités à pouvoir faire la promotion de l'allaitement maternel dans leurs différents médias. Pour Madame Claire Munzimba, cette pratique présente plusieurs avantages tant pour les bébés que pour toute la famille et la communauté. D'où l'appel aux mères d'allaiter leurs enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. L'activité s'est tenue dans la salle de réunion du Programme national pour la santé des adolescents, PNFSA, à Bandunduville. Irène Boma a pris part à cette rencontre. Elle nous en dit plus.
Cette séance de briefing organisée vendredi par le Programme national de nutrition Pronanut Kwilu à l'intention des professionnels des médias de la ville de Bandundu s'inscrit dans le cadre de ses activités de sensibilisation en rapport avec la Semaine mondiale de l'allaitement maternel célébrée au mois d'août de chaque année. Claire Munzimba est assistante technique à la coordination provinciale du Pronanut Kwilu.
C'est une période où nous faisons la sensibilisation de l'allaitement maternel, raison pour laquelle on a fait recours aux journalistes pour qu'avec eux, ensemble, on puisse atteindre toutes les couches de la population. Nous voulons que le maire puisse savoir l'importance de l'allaitement maternel dans la vie de l'enfant. C'est aussi pour la mère, pour la communauté et les pays. Un enfant qui a été nourri par le lait maternel présente plusieurs avantages à son âge adulte. Il y a le lien affectif, le développement cognitif de l'enfant et il y a la croissance.
Claire Munzimba insiste et encourage les mères à respecter les 3 étapes de l'allaitement maternel optimal, à savoir la mise au sein dans l'air qui suit l'accouchement, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et l'allaitement maternel continu de 6 mois jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la ville de Lubumbashi, fort d'environ 10 millions d'habitants, compte une dizaine d'agences de voyage. Ces agences exploitent, entre autres, les axes Lubumbashi-Likasi, Lubumbashi-Fungurume, Lubumbashi-Kolwezi ou encore Lubumbashi-Kasumbalesa. Cependant, la plupart des bus de ces agences stationnent sur la voie publique car la ville ne dispose pas de parking public répondant aux normes. C'est ainsi que sont nées les initiatives privées qui sont saluées par la population. Un reportage de Jean Gandou.
Nous nous sommes rendus au centre-ville, notamment sur l'avenue Mouero. Un grand bus avec des passagers à bord s'apprête à rejoindre la ville de Kolwezi dans le Lualaba. Cet homme, la soixantaine révolue, assis aux côtés des changeurs de monnaie et s'indigne.
Le maire de la ville, il n'a pas des agents sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Tous ces gens ici devaient être délocalisés. Tout le monde vient, il parque là où il veut et il est en train d'exploiter là où il veut.
Cette agence dont les grands bus stationnent sur la voie publique n'est malheureusement pas la seule, indique-t-il. Plusieurs autres sont logés à la même enseigne. Cependant, une autre qui fait exception se trouve à l'entrée de la ville. À en croire nos interlocuteurs, bien qu'étant une initiative privée, elle force admiration et respect.
Non, Moulika, ce qu'il a fait, comme Afrique du Sud, c'est bien.
Extraordinaire. Il a choisi un endroit qui est approprié pour lui-même. Contrairement à ceux qui sont ici en ville, qui sont en train de boire des feux, d'embouteillage.
D'autres agences achètent des parcelles qui sont tout autour de leur siège et les transforment en parking pour ne pas stationner sur la voie publique. Il y a quelques années que le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait initié les travaux de construction d'un terminal. À ce jour, les travaux sont inachevés et à l'arrêt. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le gouvernement zimbabwéen versera ce mois-ci 20 millions de dollars aux agriculteurs blancs étrangers et aux fermiers noirs locaux ayant perdu leurs terres lors des saisies sous le régime de Robert Mugabe. Cette compensation fait partie du budget 2024 visant à revitaliser l'agriculture gravement touchée depuis les saisies des 2000. Des agriculteurs étrangers des pays tels que la Belgique et l'Allemagne ainsi que 400 fermiers noirs zimbabwéens seront indemnisés. Un programme plus vaste de 3,5 milliards de dollars pour 4 000 agriculteurs blancs zimbabwéens annoncé en 2020 reste bloqué faute de fonds.
L'invité.
Le monde célèbre ce 5 octobre la Journée mondiale des enseignants pour reconnaître les rôles essentiels des éducateurs à travers le monde et rappeler l'importance de garantir un enseignement de qualité pour tous. À cette occasion, Jérémy Kinyangwa, président de l'Union nationale du corps enseignant de la province éducationnelle Nord-Kivu 2, qui couvre les régions de Beni, Butembo et Lubero, lance un appel pour la fin de l'insécurité dans cette zone. Selon lui, cette situation qui dure depuis une décennie affecte gravement la vie des enseignants et compromet la qualité de l'éducation dans la région. Jérémy Kinyangwa est notre invité. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Jérémy Kinyangwa, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Dans le contexte sécuritaire de la région de Beni, Butembo et Lubero, quels sont les plus grands défis auxquels les enseignants sont confrontés aujourd'hui?
Le plus grand défi, c'est d'abord l'insécurité. Depuis 2014 jusqu'à nos jours, avec l'insécurité, nous avons 17 écoles qui ont été incendiées. Nous avons 27 enseignants qui ont été tués. Nous avons plusieurs élèves qui se comptent à plusieurs centaines kidnappés par les EDF. La sécurité est en train d'impacter négativement notre carrière. C'est un tableau suffisamment sombre et nous pouvons utiliser votre micro pour lancer un appel pathétique à nos dirigeants qu'ils mettent tout ce qui a leur pouvoir en jeu pour que nous puissions quand même assister à la fin de la guerre. 10 ans, c'est déjà beaucoup.
Et par rapport à la vie elle-même de l'enseignant, la situation de l'enseignant dans la région de Beni, Butembo et Lubero?
La vie est en train de s'effriter. Vous savez que l'enveloppe salariale de l'enseignant perdit de son poids. Si je prends par exemple ce que nous recevions avant la guerre et ce que nous recevons aujourd'hui, ça n'est pas. D'ailleurs, je vous informe que jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais ouvert les salles de classe ici dans notre entité parce qu'il y a trop de la grogne. Ce que nous recevons ne permet même pas de nouer les deux bouts du mot. Vous savez, il faut aller à l'internet, il faut consulter tel ou tel autre manuel et entre-temps, nous avons des bouches à nourrir à la maison. Donc, ça signifie que l'enseignant ne fait plus convenablement son travail. La sécurité qui le tient à gauche. À droite, c'est l'indifférence de notre employeur qui est l'État congolais. Il y a lieu quand même que nous soyons cotés parmi les citoyens congolais qui ont droit à la vie, à rehausser notre pouvoir d'achat, à mécaniser nos nouvelles unités, donnant des salaires à nos enseignants longtemps mécanisés sans salaire. À notre province éducationnelle, nous avons 20 073 enseignants, dont seulement 14 345 sont payés. Nous avons donc 566 nouvelles unités qui doivent entrer dans la paix. Nous avons 264 enseignants déjà mécanisés qui attendent patiemment leur prise en charge. Autant donc de défis confrontés au niveau de notre système éducatif, dans notre province éducationnelle. Il faut aussi retraiter quand même les vieux enseignants pour que nous puissions quand même essayer de redorer les blasons, remonter donc petit à petit la pente de la qualité de l'enseignement.
Et comment les conditions de travail des enseignants dans cette zone insécurisée affectent-elles la qualité de l'éducation et le bien-être des élèves?
Comme indicateur, avant la guerre, nous étions sur la liste des meilleures provinces qui produisait des grandes distinctions. Vers les années 2012, nous avons plusieurs finalistes de notre entité qui ont eu des bourses. Mais depuis que la guerre est en train de nous tirer par les bas, en tout cas, les scores des candidats a diminué. Donc tout ça, c'est un tableau suffisamment bien renseigné pour vous signifier réellement qu'on y mette fin. C'est ça notre souhait le plus ardent.
Et que souhaitez-vous voir de la part du gouvernement ou des partenaires internationaux pour améliorer les conditions de l'enseignant dans la région de Beni-Boutembo et Lubero?
Nous pouvons d'abord dire qu'il faut qu'on mette fin à la guerre. Et ce n'est pas assez compliqué. La guerre, c'est un problème de volonté politique. Et au niveau maintenant de notre carrière, ce que nous demandons n'est même pas une mer à boire, si vous voyez de près. Le pays est suffisamment riche, mais le peu qui entre dans le trésor public est consommé par une minorité. Il était donc question de réduire le train de vie des acteurs politiques pour que nous aussi, nous puissions quand même nous retrouver. Il est question donc de dire à votre micro ici qu'il y a de la honte à être heureux seul. Les amis à qui nous avons donné cours, les amis auxquels nous avons donné et transmis des capacités pour occuper les postes qu'ils ont aujourd'hui, il faut quand même qu'ils songent à nous. Après 24 ans de carrière, j'ai moins de 80 dollars. Ça donne de la chair de poule. Comment est-ce que je peux me consacrer tout mon temps à préparer les leçons? Ça ne va pas. Lorsqu'on doit parler de l'éducation de qualité, il y a des préalables. Il faut que l'enseignant soit d'abord dans un environnement sécurisé. Il ne faut pas que pendant la préparation de la leçon, que quelqu'un vienne vous dire que l'ennemi est déjà à 500 mètres pour que vous puissiez abandonner l'objet classique et votre maison et tout ça. Et nous disons aussi qu'il y a lieu que, au regard de tout ce que nous avons comme revenu national, il est question donc de les distribuer équitablement pour que chacun puisse avoir sa part dans son secteur d'activité. Ce n'est même pas difficile. Il est question seulement d'une volonté politique.
Jérémy Kinyangwa, merci.
Merci, monsieur le journaliste.